Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025. J'ai fait un break, soleil, montagne, pause, mais bon, avec un léger sentiment de culpabilité quand même. Comment oser partir au moment où la saison des résultats démarre, où Trump carbure à la testostérone politique et où le private credit craque et où la France perd son doublé. J'ai osé quand même, et pendant ce temps, le S&P 500 a signé sa meilleure semaine depuis 3 mois. Panique, euphorie, record historique, tout y est passé. Bref, les marchés ont retrouvé leur mémoire de poisson rouge, et pendant que tout le monde sabre le champagne, un bruit discret revient, celui des cafards. Comprenez le bruit des trucs pourris à l'intérieur des bilans, ce qu'on préfère ne pas voir. Bon, tout est parti en fait d'une seule phrase de Jamie Dimon, patron de JP Morgan et demi-dieu de Wall Street, et qui a lâché calmement « Quand tu vois un cafard, c'est qu'il y en a d'autres ». Alors c'est pas une pub pour Bégon Vert, c'est un avertissement sur le marché du private credit, cette zone grise où des milliards circulent hors du radar des régulateurs, et quand Dimon s'inquiète, c'est rarement pour rigoler. Le marché l'a vite compris, derrière les bilans reluisants, il y a de la moisissure, des trucs pourris. First Brands et Tricolor pourraient n'être que le sommet de l'iceberg. First Brands, fournisseur automobile, a coulé sans un bruit, ou presque. UBS et Jefferies y ont laissé un peu plus d'un milliard. Et puis Tricolor Holding, vendeur de voitures subprime, a suivi. Et quand tu vois le business plan de Tricolor, tu te demandes comment c'est possible que l'on prête encore à des gars qui vendent des voitures de case, à des gens qui sont considérés comme pas fiables, en leur offrant en plus le financement en cadeau. Résultat, panique dans les bilans des banques, les banques régionales. Zion Bancorp avoue une perte de 50 millions. Et jeudi, c'était le carnage bancaire dont on a le secret. Et vendredi, c'était l'euphorie totale parce que Trump, il veut faire copain-copain avec son homologue chinois. Bienvenue donc à Wall Street où l'on panique à toute vitesse et qu'on oublie pourquoi la seconde d'après en repartant comme si de rien n'était. Pendant qu'on s'inquiète du private credit avec une insistance assez déconcertante, les banques ont fait le carton plein. Morgan Stanley plus 80% sur les IPO, Wells Fargo plus 25% sur les commissions d'investissement, Citi, BofA, Goldman, tout roule. Même les défauts sur les cartes de crédit sont en baisse. L'Amérique bancaire tourne à plein régime, sauf que le benchbook de la Fed glisse discrètement, que les marges s'érodent, que les entreprises licencient et que le moral des ménages touche le fond. C'est ce qu'on appelle l'économie Schrödinger. Tout va bien, mais personne n'y croit. Le chômage est bas, le PIB monte, la bourse bat des records, mais tout le monde se sent fauché. Tout le monde a la trouille, tout le monde trouve que c'est trop cher. En résumé, tout va bien, tant qu'on n'y regarde pas de trop près et qu'on considère que les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles, puisqu'elles vont nous permettre de baisser les taux. Aujourd'hui, nous sommes au 20e jour du shutdown. Tout le monde s'en fout, ça on sait. Pour le moment, les fonctionnaires ne sont pas plus payés. Les aéroports manquent de personnel et le PIB fond de 0,2% par semaine de blocage. À ce rythme-là, d'ici Thanksgiving, les États-Unis auront perdu un demi-point de croissance, si c'est pas plus. Mais Wall Street imperturbable continue de parier sur 2 baisses de taux avant Noël. Les marchés ont peur, mais se consolent avec Trump et Xi qui rejouent la paix commerciale version 2.0. On notera tout de même que sous les 4% de rendement, le 10 ans US est considéré comme le baromètre de la trouille. Et vendredi, on a flirté avec les 3,94% avant de remonter juste au-dessus des 4% pour sauver la face en fin de semaine. L'honneur est sauf, jusque-là, en tous les cas. Mais c'est surtout parce que Trump l'a dit et a dit qu'il voulait se réconcilier avec Xi, à croire qu'il prépare un reality show géopolitique. Il est à peu près aussi stable dans ses déclarations qu'un groupe d'influenceuses maquillage qui vous explique la physique quantique. Pour l'instant, on y croit, mais Xi Jinping ne dit toujours rien. Pendant ce temps, la France perd son doublé. Standard & Poor's vient de la rétrograder à A+, avec un petit mot sympa, hein, instabilité politique majeure. Traduction, plus personne ne croit au système Macron, les impôts montent, la dette aussi, et la réforme des retraites est mise au frigo, et les socialistes sont les pires traîtres politiques que l'on puisse trouver en France. Et pendant ce temps, Macron joue à Hercule Poirot pour chercher les bijoux de la couronne. Alors que la France a un indice de flottabilité proche de celui du Titanic, l'Italie voit sa dette remonter, la note de sa dette, DBRS relève Rome à A, à low, 2 ans de stabilité politique, déficit sous contrôle, impôts allégés, résultat, le spread Italie-Allemagne retombe à 80 points. En 2025, Rome inspire confiance et Paris inspire la peur, le doute et un président toxique au bord de la folie, le monde à l'envers. En fin de semaine dernière, on notera que l'Europe a découvert à son tour les cafards du private credit. Ce marché opaque de 1000 milliards devient le nouveau cauchemar et il y a contagion. Et chez nous aussi, les géants CVC, QT, Partners Group se sont tous fait massacrer parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le paquet surprise. Même la Bundesbank et le FMI s'y mettent. Les risques systémiques augmentent. Quand même, les institutions les plus soporifiques du monde se réveillent, c'est qu'il doit y avoir le feu quelque part. Heureusement, au milieu du chaos, les géants suisses et français redonnent un peu de fierté nationale. Nestlé plus 9% en une séance la semaine dernière, croissance organique plus 4,3%, suppression de 16 000 postes d'ici 2027 et marche regonflée à bloc. Le marché adore, c'est froid, c'est chirurgical, c'est rentable, c'est typiquement suisse. Et c'est encore mieux du côté du luxe. Chez LVMH, on a fait plus 12% en une séance. Le luxe renaît, Louis Vuitton recule moins que prévu, Dior tient le choc, Sephora explose les compteurs et surtout le client chinois est de retour. Pas dans les duty free mais dans les vraies boutiques. Résultat, le secteur du luxe se réveille et la gauche française découvre à nouveau que taxer Arnaud serait la bonne solution pour réduire le problème de la dette nationale. Sauf qu'ils ont toujours rien compris de la différence entre la capitalisation boursière et le bénéfice net. Bref, l'enfer fiscal n'est pas proche de se terminer du côté de nos voisins français. Julius Baer, la banque privée suisse, a donc décidé de jouer au Monopoly. Ça ne lui avait visiblement pas suffi la première fois. Après le fiasco Signia, voilà qu'on nous sort des gags. Un promoteur allemand en faillite, 48 millions de pertes. Le CEO promet plus jamais ça. 48 millions, c'est plus que ce qu'ils ont fait comme bénéfice en Allemagne sur la même période. La toute grande classe, plus jamais ça. Bon, on l'a déjà entendu. Je ne sais pas si on y croit encore, mais on l'a déjà entendu. La banque privée qui voulait faire de l'immobilier a donc perdu de l'argent. Et encore, un peu plus de crédibilité. Quand une banque de gestion de fortune commence à vendre du risque, c'est qu'elle a oublié son propre ADN. Et puis la semaine dernière, il y a un secteur qui a cotisé un max, c'est une simple conversation Trump-Poutine et les actions de la défense ont plongé. Rheinmetall moins 6%, Hensoldt moins 8%, Leonardo moins 5%, BAE moins 4%. Le déclencheur du sell-off, c'était quelques mots. Sommet de la paix. Les investisseurs prient pour la paix, mais vendent dès qu'elle approche. On appelle ça la stratégie acheter la guerre et vendre la paix. Cynique, mais efficace. Et si la paix échoue, bah, les cours remonteront. Et quand on voit ce qui se passe entre Israël et le Hamas, l'armement a encore de beaux jours devant lui. Donc, tout va bien. Et pour finir la semaine en beauté, Trump s'en est pris à Novo Nordisk et Eli Lilly. Le Ozempic coûtera 150 $ et plus 1000. Et résultat, moins 6% pour Novo, moins 2% pour Lilly. Un tweet et 60 milliards de dollars de market cap qui s'envolent. Mais un slogan parfait pour Trump, make Ozempic affordable again. Derrière la blague, c'est tout un business model qui vacille. Si Trump plafonne le prix à 150 $, les marges fondent et l'Amérique découvrira que maigrir, ça peut aussi ruiner Big Pharma. Et pour bien entamer, ce lundi matin, le margin debt américain vient de battre tous les records. 1100 milliards de dollars empruntés pour acheter des actions. 67 milliards de plus que rien qu'en septembre. Probablement autant en octobre. Mais c'est plus que pendant la bulle Internet. Et comme toujours, tant que ça monte, tout va bien. Mais quand ça baissera, tout le monde vendra en même temps, le fameux concept de l'effet boule de neige. Alors pour ceux qui ne vivent pas dans un hedge fund, la margin debt, c'est l'argent que tu empruntes à ton courtier pour acheter plus d'actions. Et que tu pourras que tu ne pourrais normalement te payer. Tant que tout le monde sait le paradis, tu gagnes plus vite, plus d'argent, mais quand ça baisse, tu perds encore plus vite et encore plus fort. Et si ça baisse trop, ton courtier t'appelle pour que tu rembourses, c'est ce qu'on appelle un margin call. Ce matin, Tokyo explose de 3%, record historique pour le Nikkei. La raison, Sanae Takaishi, future première ministre et grande prêtresse de la dépense publique. On n'était plus trop certain qu'elle puisse devenir premier ministre, mais finalement, ça devrait se passer. Ça devrait passer demain. Les marchés adorent, plus de dépenses, moins de rigueur et des taux qui restent bas. Pendant ce temps, Pékin annonce un PIB à plus 4,8%, un poil mieux que prévu, mais toujours plombé par la déflation et la crise immobilière. Et à Hong Kong, le Hang Seng rebondit de 2,5%, porté par la tech. Et du côté du baril, on est de retour sous les 60 $ et le WTI se traite à 56 et des poussières. L'or est à 4276, le Bitcoin à 108 000 et le rendement du 10 ans américain tient les 4% à 4,01. Autrement, tout le monde attend la pluie de résultats de la semaine. Netflix, Coca-Cola et L'Oréal demain. Et Tesla, SAP et Carrefour mercredi. C'est la moyenne semaine avant la grosse de la semaine prochaine. Il y aura aussi 2-3 banquiers centraux qui parleront avant la Black Period précédant la réunion de la Fed de la semaine prochaine. Sans surprise, tout le monde sait qu'on baissera les taux. Au fond, rien n'a changé. Le monde tourne, les marchés montent, Trump tweet, les banquiers rigolent, et tout le monde fait semblant que tout est sous contrôle. Mais derrière les bilans impeccables et les discours rassurants, il y a toujours un petit bruit discret, persistant. Le bruit des cafards de Wall Street, les dettes planquées dans le private credit, les folies spéculatives dopées au margin debt, et les gouvernements qui jouent avec les allumettes sur les barils de poudre budgétaire, plus les trucs qu'on ne sait pas encore. Et on nous dit que tout va bien. Même quand le Japon fête la dépense publique, même quand la Chine prétend croître sans consommer, et même quand l'Amérique vit à crédit en attendant sa prochaine baisse des taux. On sent bien qu'il y a un truc qui coince, mais on veut pas le voir. Alors oui, le S&P 500 brille, le Nikkei flambe, LVMH rayonne et Nestlé redonne de l'espoir. Mais pendant qu'ils sabrent le champagne, le bruit des cafards continue sous la table. Et on espère juste qu'ils ne vont pas se reproduire en masse. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Cette fois, je ne repars pas à la montagne. À demain et très belle journée.